Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment expliquer les cris de douleur? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 17 mai 2026 dans La Presse. Une lectrice, Hélène Courteau, demande: pourquoi crions-nous lors d'une grande douleur? En tombant à la renverse, après avoir perdu l'équilibre, j'ai tapé ma tête très durement sur un meuble. Au sol, je me suis surprise à hurler de douleur alors que j'étais seule et sans personne à alerter. Il y a deux hypothèses pour expliquer cette réaction courante. La première évoque l'activation des neurones responsables de la parole qui atténueraient les signaux de la douleur. La seconde veut que le fait de se concentrer pour émettre des sons diminue l'attention portée à la douleur. Des études ont montré que les vocalisations semblent diminuer la douleur, explique Natalia Egorova Brumley, neuroscientifique spécialiste de la douleur à l'Université de Melbourne. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le sujet. Madame Egorova Brumley a publié en 2025 dans la revue Pain Reports une étude sur l'impact de la douleur de quatre types de vocalisation. La douleur résultait de l'application de chaleur sur le bras de 25 cobayes et les vocalisations allaient d'un simple « ah » à un monologue en passant par des syllabes simples de type « pataka, pataka, pataka », des listes de joueurs de la semaine et la lecture d'un texte simple. Les vocalisations plus complexes diminuaient plus la douleur, mais un simple « ah » avait quand même un effet, a constaté Mme Egorova Brumley. Ça reflète probablement un effet de l'attention sur la douleur. Quand on pense à autre chose, on pense moins à la douleur. La diminution de la douleur allait de 1,5 à 3 points sur une échelle de 0 à 10. Des jurons n'ont pas été testés. Madame Egorova Brumley estime que leur utilisation fréquente quand on souffre relève à la fois de l'expression de sentiments, la colère, et de la stratégie consistant à se changer les idées, l'effet de l'attention. L'effet des vocalisations simples pourrait être dû à la coordination neuromusculaire nécessaire pour émettre des sons. Des audiologistes ont remarqué qu'on parle plus doucement quand on ressent de la douleur, ce qui montre un effet physiologique commun, dit la chercheuse de Melbourne. Mesure objective. L'étude de Pain Reports ne rapporte pas de changement dans le niveau sonore des vocalisations en présence d'une augmentation de la douleur. Mais elle observait une accélération des vocalisations et une diminution de la durée des pauses entre les vocalisations. Ces recherches pourraient permettre d'évaluer de manière plus objective la douleur. L'évaluation de la douleur par l'imagerie cérébrale est coûteuse et n'est pas très spécifique, dit Mme Egorova Brumley. Il est possible qu'en analysant les caractéristiques de la parole de patient et comment il varie dans le temps, on puisse mieux mesurer la douleur. La prochaine étape est de tester l'utilisation des vocalisations par les gens souffrant de douleurs chroniques. On veut aussi voir l'effet de la sensibilité à la douleur sur le soulagement qu'amènent les vocalisations et sur la propension à vocaliser quand on souffre, dit Mme Egorova Brumley. Certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres à la douleur. Une meilleure évaluation de la douleur est particulièrement importante pour les gens qui ne la ressentent pas facilement, dit-elle. c'est que la douleur est un signal d'un problème médical. Les patients qui ne ressentent pas facilement la douleur ou la communiquent moins peuvent passer sous le radar des médecins et avoir des troubles médicaux détectés plus tard que nécessaire. La sensibilité à la douleur varie d'un individu à l'autre à cause de problèmes physiques, neuropathiques, des types de personnalité ou de problèmes cognitifs, comme la démence, dit la chercheuse australienne. Il existe aussi des patients qui ont des mutations génétiques qui nécessitent l'administration de doses plus fortes de médicaments antidouleurs. En savoir plus. Source Santé Canada. 7,6 millions. Nombre de Canadiens souffrant de douleurs chroniques. 30%. Proportion des plus de 65 ans qui souffrent de douleurs chroniques au Canada. C'était « Comment expliquer les cris de douleur? » Un texte de Mathieu Perrault, paru le 17 mai 2026 dans La Presse.
La survie n'est pas un crime. Il y a urgence de décriminaliser l'itinérance. Un texte de James Hughes, paru le 8 mai 2026 dans Le Devoir. Sortir les gens de la rue passe par le logement et non par l'incarcération. À Montréal, la vaste majorité des infractions dont sont accusées les personnes en situation d'itinérance ne sont pas des crimes contre la personne, révèle une récente étude. Ces infractions sont plutôt liées à la survie, comme le vol de nourriture ou de vêtements. À cela s'ajoutent des cas révélateurs, comme les accusations d'introduction par effraction visant des personnes qui cherchaient simplement un abri dans un bâtiment abandonné. Faute de ressources appropriées pour répondre aux besoins des personnes, une gestion pénale de l'itinérance, inefficace et contre-productive, s'est développée. Exister dans l'espace public n'est pourtant pas un crime. Cependant, le traitement de la marginalité dans les dernières années suggère le contraire. Des accusations pour des infractions mineures. La nouvelle recherche de Paul Hyde, professeur de sociologie à l'UQAM, et de Donald Tremblay, directeur de la clinique juridique itinérante, est instructive. Elle rapporte aussi la judiciarisation fondée sur le non-respect de conditions irréalistes. On exige de personnes sans domicile qu'elles évitent certains lieux publics ou de personnes aux prises avec des dépendances non traitées qu'elles cessent toute consommation sous peine de sanctions. Ce qui signifie qu'on ne judiciarise pas la dangerosité, on judiciarise la survie. La recherche le démontre et nous le constatons à la mission Old Brewery. Les personnes en situation d'itinérance ne constituent pas en elles-mêmes une menace pour la sécurité publique. Comme le rappelait la défunte professeure Céline Bello, elles sont même plus souvent victimes de la criminalité que le reste de la population. Par cette criminalisation, nous fragilisons les parcours et alourdissons les casiers judiciaires, compliquant la réinsertion sociale. Au Québec, dans les établissements de détention provinciaux, plus d'une personne sur cinq est en situation d'itinérance visible. À la sortie de prison, trop de personnes se retrouvent sans plan, sans soutien. On crée un cycle où l'itinérance mène à la judiciarisation qui mène à plus d'itinérance. Pendant ce temps, on alimente un sentiment d'insécurité qui repose bien plus sur la visibilité de la détresse que sur une réelle menace. Et on répond à cette perception par plus de répression et de rejet. Il ne faut pas confondre dérangement et danger. Des solutions à la judiciarisation. Il est donc essentiel que la Ville de Montréal et le service de police de la Ville de Montréal, SPVM, renforcent leurs efforts pour limiter la judiciarisation et éliminer le profilage social. Modifier la réglementation municipale pour cesser de judiciariser la présence dans l'espace public et continuer la sensibilisation du personnel du SPVM aux réalités vécues par les personnes en situation d'itinérance favoriserait une approche plus efficace et plus humaine. Le nouveau protocole de gestion des campements illustre la volonté de la Ville d'agir en ce sens. D'autres solutions à la surcriminalisation doivent également être soutenues. Par exemple, le programme d'accompagnement Justice et intervention communautaire, qui existe notamment à la Cour municipale de Montréal en collaboration avec la clinique Droit Devant, permet de régulariser la situation pénale des personnes en situation d'itinérance qui se présentent à la Cour si elles s'inscrivent dans une démarche de réinsertion sociale. L'accompagnement avant et après la sortie de prison doit aussi être renforcé. En ce sens, il faut mettre en place et soutenir des programmes comme « Après l'ombre » de la mission Old Brewery, qui vise à aider les personnes qui sortent du milieu carcéral à trouver un logement communautaire ou issu du marché privé. Le logement, la clé pour réduire l'itinérance et diminuer la criminalisation. Toutefois, on ne réglera jamais l'itinérance dans l'espace public sans la régler à la base. La solution est simple et connue: reloger massivement et durablement. Donner accès à un logement stable avec l'accompagnement nécessaire réduit la présence contrainte dans l'espace public et apaise le sentiment d'insécurité. Moins de personnes à la rue, c'est moins de tensions, moins de judiciarisation, plus de sécurité. Développer plus de logements partout à Montréal, c'est offrir de la stabilisation aux personnes en situation d'itinérance et à nos quartiers. Continuer à criminaliser l'itinérance, c'est au contraire choisir d'éliminer ce qui dérange plutôt que de s'attaquer à la cause. C'est transformer un enjeu social en problème pénal. Si nous voulons réellement des milieux de vie plus sécuritaires, la réponse est simple: sortir les gens de la rue par le logement, pas l'incarcération. C'était « La survie n'est pas un crime. Il y a urgence de décriminaliser l'itinérance ». Un texte de James Hughes, paru le 8 mai 2026 dans Le Devoir.
Le côté sombre du bouddhisme. Un texte de Nathalie Collard, paru le 12 mai 2026 dans la presse. Pendant 10 ans, Elodie Emery a enquêté sur des abus perpétrés par des maîtres bouddhistes. Après un livre et un documentaire, elle raconte aujourd'hui son parcours dans une pièce de théâtre documentaire, une belle façon de faire rayonner son travail d'investigation. Notre chroniqueuse l'a rencontrée quelques jours avant le Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer, où la journaliste française présentera « Ceci n'est pas une religion ». Elodie Emery dit qu'elle est devenue journaliste par hasard en s'intéressant au marché de la croissance personnelle et au bouddhisme. Après avoir laissé un emploi en marketing qui lui apportait peu de satisfaction, elle est allée rejoindre la cohorte de gens qui cherchent un sens à leur vie. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans une retraite de découverte de la méditation dans le sud de la France. Le maître des lieux, Sogyal Rinpoché, était un proche du Dalaï Lama et l'auteur du best-seller « Le livre tibétain de la vie et de la mort » paru en 1992. Ce qui a déclenché le truc, m'explique Elodie Emery, rencontrée dans un café à Montréal, c'est qu'au cours de cette retraite, il y a eu notamment une confession publique d'un monsieur qui a parlé d'un événement pédocriminel dont il s'était rendu coupable sur sa fille. Il y a eu des applaudissements dans le temple. Choquée, la journaliste se souvient d'avoir quitté la salle. « Je ne comprenais pas que ce genre de propos puisse être accueilli de cette façon », dit-elle. Un membre du personnel lui a expliqué que la pédophilie était « un tabou occidental », me raconte-t-elle. À partir de ce moment, la jeune femme entreprend des recherches. Elle recueillera un premier témoignage, celui d'une jeune femme agressée par un maître bouddhiste. Elle me raconte des choses à peine croyables, mais je la crois tout de suite, affirme la journaliste qui a collaboré au magazine Marianne et l'Express. Elle a dormi au pied de son lit tous les jours. Elle a été frappée, violée, rapporte Elodie Emery. C'est de l'ordre de la torture. Et elle me dit, et on était toujours 8 autour de lui à recevoir ce même traitement, et ça se passait de cette façon-là dans tous les pays où il allait, puisque c'est quelqu'un qui était en itinérance sans arrêt, qui visitait des centres au Canada, aux États-Unis, en Australie, partout en Europe. Je me suis demandé, mais qui est au courant de ce truc-là? Se souvient la journaliste qui a ensuite découvert que ce n'était pas un incident isolé. Le deuxième coup d'envoi de mon enquête, poursuit-elle, a été en 2019, quand j'ai reçu le témoignage d'un Belge de mon âge qui est né et qui a grandi dans une communauté bouddhiste tibétaine. Il me parle d'une histoire où les gens étaient des enfants à l'époque. Tout d'un coup, le truc prend une autre dimension. Je me sens même un peu écrasée parce que cet homme, Ricardo, me dit qu'il est le porte-parole de 13 partis civils. Ils étaient tous des enfants à l'époque. Toutes les petites filles ont été violées et les petits garçons ont été frappés, privés de nourriture. Ça a commencé à faire beaucoup. La réaction de Mathieu Ricard. Elodie Emery a travaillé de façon intermittente sur cette enquête durant une dizaine d'années. Elle a publié un livre, puis réalisé un documentaire. Les deux portent le même titre, « Bouddhisme, la loi du silence », avec le journaliste Wandrille Lanos. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque le tandem essaie d'obtenir des réactions des figures les plus connues de la religion bouddhiste, il se heurte à un mur. Or, ils détiennent des preuves que le Dalai Lama et le moine bouddhiste Mathieu Ricard avaient tous les deux été informés d'abus perpétrés par des maîtres bouddhistes. La hiérarchie tibétaine n'est pas une vraie hiérarchie et les bouddhistes se défendent d'avoir un clergé, m'explique Elodie Emery. Néanmoins, ajoute-t-elle, quand le Dalai Lama dit quelque chose, tout le monde gravite autour de sa personne. Or, poursuit la journaliste, des dignitaires tibétains, dont Mathieu Ricard, ont visité un des centres dirigés par Robert Spatz, malgré le fait que ce dernier ait été traîné en justice pour des accusations hyper graves. Elodie Emery et Wandrille Lanos ont essayé à plusieurs reprises de contacter ce moine très connu dans la francophonie. De 2011 à 2022, régulièrement, je me mettais en contact avec Mathieu Ricard qui, systématiquement, refusait les demandes d'interview en répondant qu'il ne voyait pas pourquoi il prendrait la parole là-dessus. « Je ne suis qu'un pauvre moine errant de droite à gauche. C'est comme ça qu'il se présentait », raconte Elodie Emery. « Je trouve ça un peu léger. » Elle obtient finalement un entretien téléphonique avec le célèbre moine et ça se passe très mal. Il était sur la défensive, précise la journaliste. Il m'a dit « Je ne suis le représentant de rien. Je n'ai pas à vous répondre, je ne suis pas au courant de ce que vous me dites. » Par la suite, le moine tentera en vain de stopper la diffusion du documentaire et réussira à faire retirer son entrevue du montage final après des pressions auprès de la direction d'Arte et des menaces de poursuite. Peut-être que j'aurais dû prendre la parole du coup de manière plus claire, mais je n'étais pas au courant de ce qu'elle décrit, dira en substance Mathieu Ricard sur les ondes de France Inter. Un mensonge, selon Élodie Emery, qui a les preuves écrites que le moine avait été mis au courant. Quant au Dalaï Lama, il a finalement prononcé la disgrâce de Sogyal Rinpoché en 2017. Faire du journalisme autrement. Élodie Emery a d'abord raconté des bouts de son enquête dans le cadre de l'événement Live Mag. Créé en France en 2014, ces manifestations éphémères, qu'on aimerait bien voir au Québec, mettent en scène un magazine vivant durant lequel des journalistes, photographes et écrivains racontent au public des reportages et des enquêtes. L'équipe de Live Mag a été tellement emballée par le récit de la journaliste qu'elle lui a offert de produire un spectacle sous l'eau. Résultat, voilà Élodie Emery, actrice, racontant son enquête ainsi que toutes sortes de péripéties dans un seul en scène de 70 minutes qu'elle présentera vendredi et dimanche à Carleton-sur-Mer. Une façon vraiment chouette de présenter du journalisme d'enquête. Elle le fait, dit-elle, avec humour et sans donner de leçons. J'ai quitté un boulot parce qu'il y avait un problème de sens que moi-même, je me suis retrouvée à faire des câlins aux arbres, à faire des randonnées de jeûne où on ne mange pas du tout. Mon but, c'est que les gens apprennent des choses. On peut aimer le bouddhisme, être bouddhiste en ayant une conscience des trucs qui ne vont pas. Élodie Emery a finalement trouvé un sens à sa vie, dans le journalisme. C'était Le côté sombre du bouddhisme, un texte de Nathalie Collard, paru le 12 mai 2026 dans la presse.
Le plus grand legs de Pierre Bruneau, sa plus importante réalisation, selon lui, reste la lutte contre les cancers pédiatriques. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 19 mai 2026 dans Le Devoir. 4 ans après sa retraite, l'ancien chef d'antenne de TVA, Pierre Bruneau, dit encore mesurer l'impact qu'il a eu sur plusieurs générations de téléspectateurs. Mais sa plus grande réalisation, selon lui, reste la lutte contre les cancers pédiatriques, amorcée après la mort de son fils. Rencontré au Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, où il animait notamment une discussion sur la place de la spiritualité au Québec, Pierre Bruneau replonge dans les derniers jours de son garçon, emporté par une leucémie en 1988. La veille de son décès, il m'a dit qu'il voulait avoir ses funérailles dans une église en face du fleuve, car le fleuve, c'est la vie. Il avait 12 ans, raconte au Devoir l'homme de 73 ans, le regard tourné vers la baie des Chaleurs. Depuis sa retraite, il se consacre à plein temps à la Fondation Charles Bruneau, créée en 1990 en hommage à son garçon. Elle compte maintenant 4 centres en milieu hospitalier au Québec pour traiter les enfants atteints de cancer. On a aussi réussi à former une communauté de chercheurs. J'ai eu une carrière exceptionnelle, mais le legs de ma vie, c'est la fondation, affirme-t-il. Le médecin de son fils a d'ailleurs été, confie-t-il, un véritable modèle de compassion pour lui. Cette sensibilité a ensuite teinté la façon de M. Bruneau de couvrir les tragédies, comme la tuerie de Polytechnique, à Montréal, où 14 femmes ont été assassinées en 1989. Je voyais la douleur sur le visage des parents, et moi, j'avais vécu cette douleur-là 1 an plus tôt, quand j'avais perdu mon fils. Ça a défini le Pierre Bruno que je suis devenu pour le restant de ma vie, estime-t-il, en évoquant le moment le plus marquant de sa carrière. À travers les générations et les régions, toujours aussi volubile, M. Bruno revient sur ses 46 années en poste à TVA. « Tout le monde a entendu ma voix. Je suis passé à travers les générations », constate-t-il avec le ton calme qui le caractérise. Au Festival du journalisme de Carleton-sur-Mer, il dit retrouver des traces de son parcours dans la relève. Hier, un jeune de 14 ans présentait un atelier. « Je me reconnaissais en lui quand j'avais son âge », confie-t-il en esquissant un sourire. Le public lui témoigne par ailleurs toujours son attachement. Durant l'entrevue, au bord de l'eau, plusieurs passants s'arrêtent pour le saluer. « Vous passez du bon temps ici ?» lui lance une dame avant de poursuivre son chemin. L'ancien chef d'antenne se tourne alors vers Le Devoir pour souligner à quel point les gens sont sympathiques. Plus tard, lors d'une conférence à l'église de Carleton-sur-Mer devant des festivaliers conquis, il rappelle avoir souhaité tout au long de sa carrière demeurer ancré aux régions. « Je viens du centre du Québec, de Victoriaville. Je disais toujours, je ne viens pas d'Outremont, à Montréal, je viens d'Outrepont », lance-t-il, provoquant les rires du public. Sans vouloir jouer à la belle-mère, il raconte avoir déjà exprimé certaines réserves à ses patrons sur la place grandissante de l'opinion dans les médias, au détriment de la couverture des régions. Je leur disais, chaque fois qu'on ajoute de l'opinion, on enlève du reportage. Le reportage, il vient d'où? Il vient des régions. Et on a cette responsabilité-là de parler des régions du Québec, a-t-il affirmé sous les applaudissements. Inquiétude pour l'avenir des médias. Durant sa conférence, Pierre Bruno fait également part de ses inquiétudes quant à l'avenir des médias, plusieurs d'entre eux faisant face à des compressions. Il exhorte le gouvernement québécois à contribuer à la recherche de solutions qui permettront à tous les médias de survivre équitablement. C'est nécessaire pour que le public soit informé correctement, ajoute-t-il. Aux étudiants en journalisme présents dans la salle, l'ex-chef d'antenne lance par ailleurs un message. « Ne faites pas qu'espérer. Ayez l'audace d'atteindre vos objectifs et vos rêves. » C'était « Le plus grand legs de Pierre Bruno, sa plus importante réalisation, selon lui, reste la lutte contre les cancers pédiatriques. » Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 19 mai 2026 dans Le Devoir. »